Rebienvenue à En profondeur. Donc, en studio avec nous, avec moi, Simon, de la rubrique Apatride Anonyme. Bonjour.
Salut Leïla, ça va bien?
Oui.
Oui, bonjour à tout le monde qui nous écoute.
Bonjour.
Sur CKUT.
Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui?
Plein de bonnes nouvelles, comme d'habitude. On sait qu'on est une terre d'accueil au Canada pour toutes les personnes qui veulent immigrer. J'ai pas de dossier de fond. J'ai quelques nouvelles de, entre autres, l'Agence des services frontaliers du Canada. Et on va finir ça avec un petit survol à l'international en Angleterre, en Australie et en Suisse. Il se passe des choses assez étranges dans les forteresses occidentales. Tout d'abord, une nouvelle assez triste dont la plupart des grands médias avaient parlé, le cas de Mme Winifred Agyemelan, qui est une femme nigériane qui était menacée d'expulsion. Elle a été expulsée avec ses trois enfants, dont une très jeune fille qui était née au Canada, donc qui était citoyenne canadienne. Il y avait une demande de parrainage qui était en cours. La réponse devait arriver à peu près dans quatre ou cinq mois. Il y avait eu deux demandes de statut de réfugié qui avaient été refusées, une demande d'évaluation des risques avant renvoi qui avait été refusée aussi. Donc, elle a été expulsée dimanche le 14 septembre malgré une grande campagne de mobilisation. Donc, triste nouvelle pour ceux qui ne savaient pas. On rappelle, les avocats de Mme Agyemelan invoquaient le fait qu'il y a une épidémie d'Ebola actuellement dans cette région, en Afrique de l'Ouest. Il y a le Boko Haram qui terrorise quand même beaucoup de gens, donc qui s'en prend aux jeunes filles. Il y a le phénomène d'excision très, très répandu, très massif. Et on rappelle aussi l'absence de contact et de famille sur place là, pour ces gens-là. Donc, relativement triste. Une série de technicalités administratives qui ont fait en sorte que ça a été, que ça a été refusé et que finalement, on a dû expulser la famille. Le ministre a un pouvoir discrétionnaire et il aurait pu intervenir, mais il a refusé de le faire. Donc, voilà, on va rester au Canada. On a beaucoup parlé, les apatrides, dans les dernières années de la réforme du système d'immigration entamée par le gouvernement conservateur et plus particulièrement par Jason Kenney, qui a été ministre de l'immigration pendant plusieurs années. Réforme qui a été poursuivie par Chris Alexander. On pensait que ça prendrait une pause, cette réforme-là, mais il y a quand même des nouvelles directives, des nouveaux amendements aux lois qui ont été promulgués. Donc, réforme qu'on dit inspirée du modèle australien. On peut maintenant on peut maintenant mesurer les effets de cette réforme-là, puisque ça fait quelques années qu'elle est appliquée. Donc, on constate qu'il y a plus de deux fois moins, je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais plus, en tout cas, moins de deux fois le nombre de demandes d'asile qu'il y avait auparavant, donc de demandes de statut de réfugié.
OK.
Quelques chiffres comme ça, 2009, 35 000 demandes au Canada. 2012, trois ans plus tard, 20 000, donc une drop de 15 000. 2013, 11 000, donc on est passé en quatre ans de 35 000 à 11 000 demandes de statut de réfugié. Donc, on peut dire que ça a fonctionné comme réforme. C'était un début. On appelait la loi « loi visant à protéger le système d'immigration au Canada ». Par contre, le nombre détenus à leur arrivée, donc le monde emprisonné, est stable. Donc, on est toujours autour de 8 000 détentions de personnes migrantes par année. Ça, c'est pour des durées variables de un mois, quelques mois, des fois un an.
Donc, la proportion est plus grande?
La proportion est beaucoup plus grande, puis on peut même dire qu'aujourd'hui, on a une grande majorité de personnes qui sont détenues à leur arrivée au Canada. Donc, ce n'était pas le cas avant. Donc, on aurait 8 000 personnes détenues à leur arrivée versus 2 à 3 000 qui ne sont pas détenues. Donc, les personnes qui ne sont pas détenues sont celles qui arrivent de manière dite régulière, donc avec un titre de transport d'une compagnie aérienne ou de bateau, ça surprendrait plus. Puis des personnes qui auraient déjà rempli des formulaires de demande de statut de réfugié au préalable, en ligne par exemple, ou par la poste. Donc c'est un changement de culture très important qui s'est opéré rapidement puis qui a bien fonctionné. Moi personnellement, je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas eu plus de résistance de la part de la machine administrative, des fonctionnaires. Tout le monde semble bien complice, semble bien à l'aise. C'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, le changement s'est fait. J'ai pas entendu beaucoup, j'ai fait des recherches sur les syndicats des employés de l'État, si on dénonçait ou on tentait de résister à ces pratiques barbares-là qui sont de menotter les gens dès leur arrivée, de séparer les enfants de leurs parents, de les mettre dans des fourgons, de les mettre en prison, mais j'ai rien vu en ce qui concerne les syndicats. Tout le monde semble bien à l'aise avec ça. Donc, au Canada, l'agence qui est responsable de l'accueil des réfugiés, c'est l'Agence des services frontaliers du Canada, si on le sait. Ça m'amène à un communiqué que j'ai lu du Conseil canadien des réfugiés, communiqué qui est sorti récemment et qui demande la mise en place d'un organisme de surveillance de l'Agence des services frontaliers.
OK.
Tout ça découle un peu, en fait, c'est quelque chose que je connaissais pas, un décès d'une personne migrante détenue à Vancouver qui s'appelait Lucia Vega Jiménez.
Oui.
Elle est décédée fin décembre 2013 dans un centre de détention de l'Agence des services frontaliers à Vancouver. Des circonstances un peu nébuleuses, le décès n'a été rendu public qu'un mois plus tard. Je vous invite à lire le communiqué du Conseil canadien des réfugiés, donc on peut aller sur leur site web. Le communiqué s'appelle « Enquête du coroner, deux points, des réponses recherchées concernant la mort d'une détenue de l'Agence des services frontaliers ». Dans le communiqué, on peut lire, je vais vous faire une citation.
Oui.
J'ouvre les guillemets. « Les rapports préparés par la Croix-Rouge canadienne dans le cadre de leur surveillance des conditions de détention soulèvent des préoccupations concernant les effets de la détention sur les personnes vulnérables et la nécessité d'améliorer l'accès aux services de santé mentale. » Donc, tout ça amène le Conseil canadien des réfugiés à conclure qu'il faut absolument un organisme de surveillance de l'Agence des services frontaliers. Je vous fais une autre citation rapidement. « Malgré ses vastes pouvoirs d'arrestation et de détention, l'Agence des services frontaliers n'est soumise à aucun mécanisme d'examen externe et les personnes qui dénoncent les abus ne peuvent se plaindre qu'à l'Agence des services frontaliers elle-même. La plupart des autres organismes d'application de la loi au Canada sont soumis à un mécanisme de plainte indépendant. L'absence de contrôle augmente le risque d'abus de pouvoir de la part de l'Agence des services frontaliers. Il s'agit d'une préoccupation particulière dans les cas de nombreux non-citoyens vulnérables et racisés avec lesquels l'Agence des services frontaliers interagit. » Là, j'ai une autre nouvelle qui semble avoir un lien, mais il n'y en a pas vraiment.
C'est quoi?
C'est l'Agence des services frontaliers. J'apprenais dans le journal Métro du 22 septembre un article intitulé « Immigration, deux points, la surveillance électronique au lieu de la détention ». Donc, c'est un rapport interne de l'Agence des services frontaliers qui a été obtenu grâce à une loi d'accès à l'information. Ça propose de remplacer la détention par la surveillance électronique. Donc, bracelet GPS, système de reconnaissance vocale, autres outils de géolocalisation. Donc, on nous dit que ça coûterait peut-être moins cher que les 240 $ par jour que coûte la détention d'une personne migrante.
Okay,
donc, il n'y a aucune motivation humanitaire ici.
Oui.
C'est vraiment des considérations économiques seulement.
Oui.
Il y a un projet pilote qui va essayer de démontrer sous peu que ça coûte effectivement moins cher. C'est inspiré par des pratiques déjà en place aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc, gros profit à prévoir pour toutes les compagnies de sécurité, de surveillance, même d'armement, mm-hmm. qui sont généralement assez proches du gouvernement conservateur. Dans le communiqué interne qui a été obtenu, une autre solution envisagée par l'Agence des services frontaliers, c'est que les personnes migrantes en attente de statut se rapportent par téléphone, un peu comme le font les prestataires d'assurance chômage, d'assurance emploi. Ils font des déclarations par téléphone. Personnellement, c'est une mesure de contrôle, mais ça me semble quand même moins contraignant ou humiliant qu'une détention ou qu'un bracelet GPS porté 24 heures sur 24. Est-ce qu'il me reste quelques minutes pour qu'on puisse aller à l'international un peu?
Il nous reste plusieurs minutes.
Plusieurs minutes, OK.
Oui.
Fait qu'on peut prendre le temps
oui.
de bien expliquer
oui,
ces
oui.
choses-là. Donc, on va quitter le Canada, on va aller vers l'Angleterre. Une nouvelle qui va vous faire rire, mais qui n'est pas drôle. C'est le ministère britannique de l'immigration qui souhaite aider la ville de Calais à sécuriser son port. Donc, on sait que la ville de Calais, c'est l'endroit français qui est le plus proche de l'Angleterre. C'est sur la Manche et c'est l'endroit où la Manche est la plus étroite. Donc, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui sont parquées là en attente de traverser vers l'Angleterre, ce soi-disant paradis. L'Angleterre souhaite aider la ville de Calais à sécuriser son port et elle va offrir à la ville de Calais les clôtures de sécurité qui ont servi lors du sommet de l'OTAN à Newport. Le communiqué du ministère anglais vante les vertus environnementales de ce recyclage de clôtures.
OK.
Oui, oui, je suis sérieux. Et la ville de Calais a accepté l'offre. Donc, bientôt, on retrouvera des clôtures qui ont servi lors d'un sommet de l'OTAN dans le port de Calais. On s'en va en Suisse. La Suisse, c'est aussi une nouvelle qui fait un peu l'amalgame entre environnement et immigration, ce qui est assez rare quand même. Mm-hmm. Donc, un référendum qui s'en vient en Suisse. Ça, en soi, c'est pas surprenant. En Suisse, il y a tout le temps des référendums qu'on peut appeler d'initiative populaire. Par contre, c'est un référendum qui porte sur l'immigration. Le document de travail du référendum s'appelle, là on va rire encore, « Plafonner l'immigration pour réduire l'empreinte écologique ». Donc, encore une fois, c'est un rapport un peu bizarre entre immigration et environnement.
Oui, il s'agit de quoi?
Il s'agit, c'est pas très clair, en fait ça propose deux mesures principales sur lesquelles les Suisses vont être amenés à se prononcer. Donc la première mesure, limiter à 0,2% de la population totale sur 3 ans le nombre de personnes reçues en Suisse. Et l'autre mesure, que 10% de l'aide au développement soit consacrée à la planification familiale volontaire. Donc chercher le rapport. C'est un peu... on veut peut-être diminuer à la source le nombre de personnes migrantes potentielles en favorisant des mesures de planification familiale. Mm-hmm. Donc, un peu sous le couvert de deux thématiques vertueuses quand même, l'environnement, le droit des femmes, on veut limiter drastiquement l'immigration. Il y a eu de nombreuses critiques, évidemment... Ben, entre autres parce que c'est profondément raciste, mais aussi parce que le lien entre ces trois choses-là, environnement, planification familiale, immigration, il n'est vraiment pas clair. Mm-hmm. Les explications de la personne qui a initié le référendum sont très boiteuses. Donc, à voir. Le référendum va avoir lieu le 30 novembre.
OK.
On verra si... Ça me rappelle un autre référendum qu'il y a eu en Suisse en 2009.
Oui.
On voulait interdire la construction des minarets. Mm-hmm. Donc, ces tours de mosquées qui souillerait le beau paysage pastoral de la Suisse.
Oui, donc, je me rappelle.
Oui, c'était étrange. on va finir avec l'Australie.
Oui.
L'Australie veut envoyer ses réfugiés au Cambodge. C'est vrai.
Comme mesure de plan B.
Je sais pas, je connais pas tout l'historique qui a mené à cette décision-là, mais c'est une décision qui a été votée, qui a été adoptée par le gouvernement australien. L'entente a été signée entre les gouvernements australiens et cambodgiens. Donc, on enverra un premier contingent de 1000 personnes migrantes vers le Cambodge. C'est un accord de 40 millions de dollars entre les deux pays. Mmh. Donc, est-ce que c'est de la sous-traitance? Est-ce que c'est pas de la traite de personnes? Parce que l'Australie ne vend pas ses personnes réfugiées. L'Australie donne de l'argent pour se débarrasser de ces personnes réfugiées-là. Puis évidemment, ça cause toutes sortes de problèmes. Actuellement, on calcule qu'au Cambodge, il y a 68 personnes réfugiées. Et on en enverrait 1000 tout d'un coup en premier, puis il y en aurait plus après. Donc, en premier, il y aurait une augmentation de 1500% de personnes réfugiées au Cambodge. Et le Cambodge n'a pas les infrastructures d'accueil ou administratives pour recevoir toutes ces personnes-là.
Mais 68, il me semble que c'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup, effectivement. Ouais. Puis on voudrait multiplier ça par je sais pas combien à terme, là, mais par beaucoup. Donc c'est une décision qui est très, très discutable, évidemment, qui suscite aussi toutes sortes de critiques et qui pose quand même une question. Les gens qui ont choisi de vouloir obtenir un statut de réfugié en Australie, c'est pas au Cambodge qu'ils voulaient aller.
Oui.
Donc ça n'a pas rapport, là.
Oui.
Je vais terminer en vous citant le directeur de la section Asie de Human Rights Watch, oui. Phil Robertson. Mm-hmm. Fondamentalement, l'accord de l'Australie pour se débarrasser de ses réfugiés consiste uniquement à enterrer les violations des droits de l'homme commises par Canberra et à payer le Cambodge pour nettoyer son bordel. Le premier ministre Tony Abbott et son gouvernement devraient être condamnés universellement pour avoir saccagé le principe même de la protection des réfugiés dans la région. Donc voilà, ça s'additionne à plein d'autres critiques, des condamnations assez fermes, dont Amnesty International et d'autres gouvernements.
Merci beaucoup pour ce sommaire.
Merci à vous, toujours très agréable.
Merci.